numériques sont-ils une révolution de l'aide à la personne? Alors avant de commencer, je voudrais vous dire que nous avons des intervenants qui vont parler en anglais et que vous avez des petits casques comme celui-ci, des petits casques disponibles sur le côté de la scène. Donc vous pouvez aller chercher les petits casques pour aider pour aider à la compréhension. Par contre, nous vous demandons de les ramener à la fin parce qu'il faut les recharger entre les conférences pour que les suivants puissent en profiter. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler des robots domestiques. Donc l'idée, c'est que face au vieillissement de la population, il est fort probable que le marché des robots domestiques explose relativement prochainement. On voit déjà des premiers robots qui sont construits et qui sont vendus. Est-ce que cela va continuer et est-ce que cela va modifier les rapports sociaux et familiaux, les rapports dans la société grâce à ces robots? Alors pour parler de cela, nous avons Rodolphe Gélin, qui est un spécialiste de la robotique, qui a travaillé 10 ans au CEA sur la commande des robots mobiles pour les applications industrielles de nettoyage et d'aide à la personne handicapée. Il a dirigé le service cognitique, robotique et interaction au CEA List et a fait partie d'un groupe de travail sur la définition du vocabulaire robotique pour l'ISO. Alors, il faudra nous en parler un jour. Depuis 2009, il travaille chez Aldebaran Robotics, où il est à la tête du projet Roméo, visant à développer un robot humanoïde à taille humaine. Il est aussi auteur de livres, dont un au titre évocateur pour nous aujourd'hui, qui est « Robot, ami ou ennemi ?». À côté, nous avons Peter Ford Dominé, qui a travaillé pour la NASA. Il est aujourd'hui directeur de recherche en neurosciences et robotique au sein de l'équipe réseau cortical et interaction cognitive de l'Institut Cellules Souches et Cerveau de l'INSERM de Braun. Un des sujets de recherche de son laboratoire est le robot iCube, grâce auquel il progresse sur les relations cognitives et la robotique. Pour lui, un robot, ça s'éduque, comme un enfant de 18 mois, les bêtises en moins. Nous imaginons les robots, lui vit déjà avec le robot de demain, un robot capable d'apprendre et de coopérer avec l'homme. Ensuite, à côté de lui, nous avons Jack Steed, qui est américain, un écrivain féru du futur et de la psyché humaine. Il a été nominé pour plusieurs prix dans son pays et est publié dans des revues comme Asimov Science Fiction. Bien qu'il ait écrit de nombreuses nouvelles et de romans, il est, à ma connaissance, pas encore traduit en français, et bien qu'il ait été traduit dans diverses langues. Et pour terminer, parce qu'il en fallait un pour terminer, Marc Caro est réalisateur et directeur artistique, parfois aussi acteur. Il a travaillé avec Jean-Pierre Jeunet sur Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus. Il a publié des bandes dessinées dans Métal Hurlant, Fluide Glacial, Charlie Mensuel et L'Écho des Savanes. Il a réalisé son premier long métrage en solo dans Dante 01 avec Lambert Wilson et un documentaire sur la technologie au Japon qui est intitulé Astro Boy à Roboland. On lui doit aussi plusieurs courts-métrages dont Vibro Boy. Alors, messieurs, donc aujourd'hui, nous sommes là pour discuter des robots. Nous avons déjà eu un aperçu ce matin pour ceux qui étaient là et qui ont été dans l'autre espace. Vous avez pu apprécier le robot Nao et ce que Rodolphe Gélin arrivait à lui faire faire. Mais donc aujourd'hui, nous avons essayé maintenant de nous préoccuper un peu plus des interactions, c'est-à-dire de l'homme face à la machine et de l'aide que la machine peut apporter à l'homme, autant en termes physiques, d'assistance physique que d'assistance psychologique, si possible. Enfin, on va voir ce dont on va pouvoir parler. Alors, tout d'abord, j'aurais posé, Rodolphe Gélin, puisque vous êtes à côté de moi, qu'est-ce que l'on entend quand on veut parler d'un robot domestique? Qu'est-ce que ça peut recouvrir?
Le robot domestique, en termes de standardisation ISO, vous en parliez, je pense que c'est un terme qui n'existe pas. Cela dit, c'est quand même, on parle de robot de service, c'est-à-dire un robot qui est destiné à travailler avec l'homme, être au plus près de l'homme, alors travailler dans des environnements industriels et l'assister, l'aider, être un compagnon au quotidien quand on parle de robots plus domestiques. Donc ces robots domestiques sont des robots qui seront à nos côtés toute la journée et suivant nos besoins, ils pourront ou bien nous aider dans des gestes quotidiens, si nous sommes des personnes handicapées, âgées, fainéantes, ou bien ça peut être simplement des compagnons qui vont nous distraire, qui vont nous rappeler notre emploi du temps. Voilà. C'est l'intérêt, et notamment de ce robot, c'est que ils sont des mémoires, de la puissance de calcul à notre service, et on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Donc, il faut inventer ça ensemble. Comment vous voulez vivre avec les robots demain? Aldébaran développe des robots pour vivre avec vous. Et ben moi, ça fait partie des choses qu'on va chercher dans la science-fiction, mais aussi auprès du public. Qu'est-ce que vous attendez? Ça, c'est un rôle un peu passif à l'écoute. Et puis, on a un rôle aussi plus actif où on fournit des robots à des particuliers chez eux. Et on leur dit, voilà, vous avez un robot chez vous. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Allez-y, on vous aide à le faire.
Alors, plus basiquement, effectivement, ce sont des robots quand même de laboratoire, des robots qui sont relativement chers encore, qui sont construits à peu d'unités, je présume. Et par contre, il y a déjà des robots qui sont disponibles dans les grands magasins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous avez quand même des aspirateurs robotiques qui vont aller vous nettoyer votre appartement pendant que vous n'êtes pas là, des tondeuses intelligentes, alors je mets des guillemets autour d'intelligentes, qui vont vous tondre la pelouse. On peut espérer qu'elles ne coupent pas les fleurs en même temps. Et par contre, donc je pense que je vais me tourner vers Marc Caro, donc, qui a fait tout un reportage sur les robots au Japon. Et donc là, au Japon, il y a beaucoup plus de robots que par chez nous, déjà.
Il y a une différence fondamentale au niveau de la robotique entre le Japon et le reste du monde. Peut-être maintenant, c'est en train de se développer aussi en Allemagne, en France. Mais c'est vrai que, à la différence des Américains, où la robotique a quand même été principalement développée par l'armée, par les militaires, au Japon, c'est quand même les grands constructeurs de voitures, ce sont les grosses industries électroniques qui ont financé cette recherche. Donc, le but de la robotique au Japon est vraiment de faire un assistant, de faire un outil qui puisse aider la population japonaise à franchir le pas de son vieillissement de population, quoi. Donc c'est vrai que, à travers moi, l'expérience que j'ai eue à travers ce documentaire, il y a une vraie pénétration à différents niveaux dans des recherches qui sont faites au niveau des hôpitaux pour l'aide aux malades. Il y a des recherches qui sont faites de la proximité des robots avec les enfants dans des écoles. Il y a tout un aspect aussi d'aide à la voiture, parce que maintenant on met aussi le véhicule va presque devenir un robot dans lequel on est. Il y a plein de développements qui ont été faits comme ça, et ça part dans beaucoup de directions différentes. Mais une des particularités du robot, en tout cas moi, tel que je l'ai expérimenté au Japon, c'est qu'il y a une volonté de le faire humanoïde. Parce que ce qu'ils se sont dit, c'est que le robot, pour qu'il vive avec les humains, il faut qu'il ressemble à un humain. Autrement, ce sera juste un aspirateur de plus ou des choses comme ça. Ce sera une cocotte minute. Alors qu'ils veulent créer un genre de rapport plus, entre guillemets, affectif, émotionnel, avec la machine, quoi. Et l'autre chose aussi, c'est que pour eux, par exemple chez NEC ou dans ce genre de société, c'est aussi le robot va permettre un interfaçage avec l'électronique. C'est-à-dire, c'est eux qui vont les mettre. La société est de plus en plus en train de s'informatiser, forcément, puisque les maisons avec la domotique deviennent de plus en plus complexes. Et c'est vrai qu'on va avoir besoin d'un assistant pour gérer tout ça, et ça serait l'interface serait le robot. Voilà, moi, c'est un peu ce que j'ai perçu dans cet aspect.
Alors, effectivement, donc on voit qu'il y a déjà un champ. Alors, avant de venir sur la partie psyché et le rapport, je dirais, à l'humain, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qu'on imagine qu'un robot puisse faire dans une maison? Donc, est-ce que vous avez, vous qui êtes déjà des chercheurs qui travaillaient sur le sujet, un petit peu en avance?
En fait, j'aimerais bien rebondir sur cette partie sociale, en fait, parce que qu'est-ce qu'un robot peut faire avec un être humain? Si on parle de le côté communication, il faut revenir pour poser la question, quand les êtres humains communiquent entre eux, ils parlent de quoi? Qu'est-ce que c'est la base de la communication? Et là, nous sommes en train d'essayer de réétudier le développement chez l'enfant. En fait, les enfants sont nés avec une motivation peut-être le plus fort que de manger, une motivation de partager avec l'être humain, de partager le regard, d'imiter, de faire les petits jeux de gestes. Et donc, en fait, le robot qui va interagir avec l'homme doit être doté de cette même motivation d'interagir. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'il fasse les distinctions entre lui-même et autrui. Donc, ça, en fait, ça ouvre les grands chantiers de déjà de qu'est-ce que c'est d'être humain et est-ce qu'on peut mettre ça dans les robots.
Alors, ça, d'accord, donc on va changer un petit peu de... alors, en fait, quelles sont les interfaces ? C'est-à-dire que l'être humain, il est tel qu'il est, il a des bras, des jambes, il a des yeux, il a un visage expressif. On a vu Nao ce matin qui a un corps expressif, mais qui n'a pas de visage réellement expressif à part la couleur des yeux. Quelles sont les interfaces que l'on peut imaginer entre le robot et l'homme ? Donc, quelles sont les interfaces dont on a besoin ?
Il faut toujours regarder à l'homme. Donc, les interfaces sont le regard, l'expressivité faciale, la parole, la prosodie, de pouvoir parler comme ça, ou bien de parler gentiment, les gestes, le contact, le peau, le toucher. En fait, c'est ça un des grands intérêts. C'est, il faut regarder à nous-mêmes pour prévoir qu'est-ce qu'il faut dans les robots.
Donc là, on parle de robots humanoïdes. Donc à chaque fois, alors que je discutais tout à l'heure avec M. Stillingsted, qui disait que lui, il m'a parlé de robots animaux et donc d'animaux de compagnie.
Right. I'm interested in the idea of teaching the robot to mimic human. Mimic human or animal motion or reactions, like we were talking a little bit ago about. We were talking a little bit about you teaching your robot to track our eye movements, like a person would, or even a dog. It's not that there's anything going on inside the robot's head. It's something going on inside of our heads, and we're reacting to what we see. So we can get an emotional response in ourselves from the motion of the machine. Because it's keen on factors inside of our own minds, that interests me, and it seems somewhat akin to the movies. Like an animator will animate whatever, a tree, an inanimate object, or Disney or whatever it might be, Miyazaki, and the motion of the normally inanimate object will elicit an emotional response from the human. I think this is one way that we can interact with robots. They tell us, we see what we expect to see based on the emotion, based on the motion of the construct.
Oui, alors, c'est vrai qu'en faisant des robots humanoïdes, on est tenté de plaquer sur eux. On se dit, puisqu'on a choisi cette forme-là, on va plaquer sur eux les modes de communication que nous, on a entre humains. Mais on peut aussi s'offrir un peu plus de liberté. Et on connaît tous R2-D2, le robot de la guerre des étoiles, qui n'est pas du tout humanoïde et qui ne communique pas du tout de la même façon que nous. Mais on a quand même réussi à interpréter ces sifflements, ces petits mouvements de tête, comme voilà, un mode d'expression. Et donc on peut aussi imaginer que les robots auront leur propre mode d'expression. Il y a certaines personnes aussi qui disent que ce n'est pas la peine de mimer sur un robot, certaines attitudes purement humaines qui n'ont aucun sens. C'est un peu prendre les gens pour des idiots, de leur dire, voilà, le robot, il se gratte les fesses pour montrer qu'il est ennuyé. Voilà, un robot ennuyé, il ne va pas se gratter les fesses. Éventuellement, il va faire tourner une LED parce que son CPU tourne. Mais voilà, donc est-ce qu'on n'est pas obligé non plus de plaquer toute la gestuelle et toute la façon dont les êtres humains se comportent pour faire ressentir ce que le robot est en train de traverser comme état d'âme, entre guillemets. Donc on imagine aussi que le robot ait sa propre façon de s'exprimer et qu'il y a un apprentissage petit à petit qui se fasse et l'homme arrive à comprendre, voilà, de la même façon qu'un chien, un chat, ça n'exprime pas leurs inquiétudes de la même façon que nous, leurs sentiments, ils remuent la queue, nous on a appris que, voilà, et on pourrait très bien apprendre que le robot, quand ses oreilles tournent rouges, c'est qu'il est content, mais pas du tout qu'il saute en l'air ou qu'il fasse un grand sourire. Donc on peut aussi imaginer que l'interaction s'apprenne un peu. On a vu ça aussi, Nao, il parle assez lentement, on dialogue avec lui, donc l'interaction orale, par exemple, ça c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, on parle au robot, il nous répond, mais il répond assez lentement, parce qu'il faut qu'il réfléchisse beaucoup, c'est compliqué ce qu'on lui dit. Et donc il faut le laisser, faut lui parler doucement, et attendre un peu après qu'il ait fini de parler, pour lui parler. Et ça, bah, par exemple, quand moi je parle à des Anglais ou que des Anglais me parlent, je fais comme ça aussi. J'adapte ma façon de parler à une personne étrangère parce que je veux être sûr qu'elle comprenne bien. Donc de la même façon, avec les robots, il y aura des modes de communication qui vont s'établir et qui feront que peut-être c'est peut-être mieux qu'on ne parle pas de la même façon à un robot qu'à une vraie personne.
Ce genre d'interaction avec les robots a déjà été faite même pour Aibo. Par exemple, quand il était content, c'était vert, il y a des lumières vertes, il y avait les oreilles effectivement qui bougeaient, des choses comme ça. Alors je sais qu'il y a des études, moi j'ai rencontré le professeur Ishiguro à Osaka, qui lui fait des recherches comme ça sur le rapport et l'interface, alors en créant carrément des robots qui ont un aspect Android, quoi, avec des peaux, des expressions humaines et tout ça. Et ils se sont aperçus qu'il y a un phénomène qui se produit, c'est que plus c'est ressemblant, plus au bout d'un moment ça peut basculer de l'autre côté. Parce qu'à un moment, ça ne peut pas être vraiment ressemblant comme un être humain. Et à un moment, on s'aperçoit que c'est un robot. Et là, il y a par contre un phénomène de rejet qui se produit. Et donc, il y a des études qui sont faites assez précisément là-dessus. Ils ont aussi... Ils développent plutôt des genres de robots d'apparence féminine parce que, a priori, on n'est plus à même d'avoir confiance dans ce genre d'apparence. La taille aussi est très importante. Souvent, on fait des robots de petite taille pour qu'on puisse se dire qu'on va le maîtriser. Il y a plein d'études qui ont été faites pour justement ce rapport entre hommes et machines. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on peut aussi avoir des rapports avec d'autres types de robots qui sont à roulettes, tout ça. Il y a des robots chez la NEC, par exemple, ils sont à petites roulettes et ils sont intégrés dans des écoles et les enfants, c'est vraiment un compagnon, un jouet, un chien. Il y a vraiment un rapport très affectif avec le robot. Pourtant, il n'a rien d'humanoïde, vraiment, à part qu'il parle. Voilà.
Je vais préciser une chose. Il ne faut pas confondre la forme humanoïde avec une réactivité sociale. Ça veut dire que même un Roomba ou n'importe quel, même à la limite un micro-ondes, peut répondre dans une façon où il montre qu'il a compris ce qu'on veut, il apprend, il a des contingences, donc il va avoir une réactivité comme un être vivant. Et en fait, même vous avez peut-être vu ces petites... de cartoons, des objets tout à fait inanimés, les petits carrés qui vont chasser les uns et les autres sur un écran. Dès qu'il y a une certaine cinématique, un certain mouvement dans le temps qui ressemble à quelque chose de biologique, ça change tout et on est prêt à prêter l'intentionnalité ou un certain esprit à ces objets. Et c'est ça qui est un petit peu une clé de voûte pour ce type d'interaction.
Alors, donc, ce que vous venez de dire tous, là, c'est qu'effectivement, il y a des notions d'interaction qui ne sont pas obligatoirement effectivement donc, des réactions humaines. Mais maintenant, est-ce qu'on peut craindre de la focalisation, c'est-à-dire les humains qui personnalisent leurs robots et les voient en tant que, finalement, qu'amis, voire plus
J'ai discuté avec une Italienne à Venise récemment qui avait fait une étude sur la façon où les gens s'interrompent. Et donc, il disait que les gens de Naples s'interrompent sans arrêt et ils vont compléter les phrases d'autrui, tandis que les gens de Udine ne font pas ça. Et donc, en fait, il faut s'adapter aux gens. Donc, on disait que oui, le robot, il doit s'adapter à la personne. Donc, le robot... Dans cette personnalisation, le robot va apprendre un petit peu les façons de son maître et dans cette façon, il va s'adapter. Et le maître peut-être aussi, comme tu disais, va s'adapter à la langue ou la façon d'interagir. Donc probablement, il y aura une co-adaptation et que finalement, souvent les gens ont peur de ça. Ils disent « Oui, mais qu'est-ce que c'est ?» Ça, c'est le comble que moi, je vais avoir une relation sociale avec un robot. Mais en fait, c'est pas du tout... Il n'y a rien de néfaste. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant.
Et je crois que les gens ne sont pas dupes. Nous, on travaille avec un ethnologue qui imagine bien l'idée d'un pacte qu'on passe avec les robots. Je sais que tu ressembles à un humain, mais je sais que tu n'en es pas un. Et toi, tu sais que je le sais. Et donc, on se met d'accord là-dessus. Alors après, on va charger de l'émotion, de l'affect, mais personne n'est dupe. On s'est mis d'accord au début, tu as une machine, Alors peut-être par son apparence, justement, on ne va pas se rapprocher, ce que citait Caro, d'un robot qui ressemble énormément à une personne. On va rester un peu plus dans une apparence un peu plus mécanique. Comme ça, le pacte sera toujours là et il n'y aura pas d'ambiguïté. On sait qu'on parle toujours à une machine, on parle à sa voiture, on l'engueule, on la remercie, mais on n'est pas dupe, quoi. On sait bien que c'est une voiture.
Mais si tu fais un pacte, tu as fait un pacte avec quelqu'un.
Oui, alors je vais rebondir justement là-dessus. Si vous parlez de, c'est comme avec les animaux domestiques, avec un chien, un chat, il y a une interaction comme ça, et l'animal s'adapte au maître et vice-versa. Ce qu'il y a, c'est que chez les robots, pour l'instant, on n'est pas du tout au même degré d'intelligence, je trouve. Moi, ce que j'ai vu, c'est que tous les robots, alors je ne sais pas, moi j'y étais il y a 3-4 ans, donc ça a peut-être énormément progressé depuis, mais je ne crois pas. Alors, autrement, j'en aurais peut-être entendu parler. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence chez les robots. Si vous leur changez un petit paramètre quelque part, le robot Honda, là, il se pète la gueule en marchant dans l'escalier, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez, justement, pour les faire qu'ils puissent s'adapter ? Quelle est la marge de manœuvre qu'on a maintenant ?
En fait, on peut parler dans l'anglo-saxon de the robotics bottleneck. Et donc, ça veut dire qu'on arrive à un certain niveau de complexité où on a des systèmes de vision, on a des systèmes de planification de mouvement, on a des systèmes de parole, on a des systèmes d'attribution d'intention à l'être humain. Et on va continuer d'ajouter les choses et ça devient une espèce d'usine à gaz. Et comme vous disiez, on modifie un paramètre et clac, ça ne marche plus. Et donc, ça nécessite, dans un certain sens, une nouvelle façon de voir même les architectures cognitives, informatiques de ces systèmes, mais ça va venir, ça progresse.
La chose la plus intéressante que j'ai vue, moi, au Japon, c'est un bras robot, pourtant il était très très simple, et sauf qu'il y avait une petite caméra, et puis une genre de pince comme ça, et c'était attiré par le vert. Si on lui montrait la couleur verte, c'était attractif. Et si on lui montrait la couleur bleue, c'était répulsif. Mais sauf qu'à un moment, si on montrait très très rapidement, on passait de l'un à l'autre, c'était là le robot qui choisissait. Et là, on se dit qu'il y a une genre de petit interstice où commence à y avoir le libre arbitre, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et c'est de ça dont vous parlez ?
Oui, un petit peu. J'ai discuté avec il y a des roboticiens ingénieurs qui, pour contrôler le robot, ils veulent que c'est un système mathématique bien formé, les matrices jacobiennes inverties. Et il y a de l'autre côté, les gens qui font des réseaux neuronaux qui vont apprendre au fur et à mesure, mais qui sont plus adaptatifs et peut-être moins sujets à un paramètre, un faux paramètre. Donc, pour trouver ces petites interstices où le système peut s'adapter, il faut qu'il ait adaptatif. Et donc, on peut, je ne sais pas ce que tu penses, mais peut-être parce que les ingénieurs vont dire oui, votre réseau neuronal, c'est intéressant, mais je n'ai pas de confiance parce que ce n'est pas mathématique. Donc on verra, mais à mon avis, on va voir dans les années à venir des nouvelles architectures plus adaptatives qui vont donner lieu à ce type de spontanéité.
D'accord, un comportement, d'accord.
Moi, je pense que l'adaptativité peut être mathématique aussi. La commande adaptative, c'est une théorie mathématique qui existe aussi. Et je vois dans... Alors, c'est peut-être pas dans les robots, mais vous voyez, avec tous les utilitaires qu'on a sur notre PC, sur notre smartphone, le robot qui est dedans, apprend nos préférences petit à petit. Et notre robot, chez nous, il sera pareil. Alors, aujourd'hui, il voit que vous écoutiez toujours du Graham Allwright, et donc il va vous proposer des trucs un peu comme ça. Et il va... Voilà, aujourd'hui, cette notion d'apprentissage de vos préférences existe. Et donc le robot, il va bénéficier de ce genre de technique. Il va apprendre, il va voir que c'est toujours aux mêmes heures que vous levez, que vous prenez toujours la même chose au petit-déj, en fonction. Après, il va prendre de plus en plus de paramètres en compte. Donc cette partie d'apprentissage aussi, elle commence à exister. Le robot bénéficiera de ça. Aujourd'hui, les roboticiens ont d'autres problèmes. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas la couleur de la balle, on n'entend pas quand on lui parle. Mais dès que... Voilà, le gros problème pour moi de la robotique, c'est la perception. C'est de comprendre ce qui se passe autour de lui. Après, réfléchir, s'enrichir, tout ça va se faire très vite et ça se fait sur nos PC. C'est pour ça que c'est affreux avec Google et Facebook. Ces gens-là ont directement, c'est nous qui rentrons à la main tout ce qu'on veut, tout ce qu'on sait sur nous. La difficulté du robot, c'est que personne tape dedans, tu sais, moi j'aime bien le jus d'orange, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Donc il va falloir qu'il l'apprenne avec ce qu'il regarde, avec ce qu'il entend, ça va être beaucoup plus long. Mais voilà, aujourd'hui, les machines nous connaissent, s'adaptent à nous déjà. Et le robot, bah, il suivra cette...
They're not thinking or exercising free will. My smartphone will get used to me. So if I'm typing a text message, it will anticipate what I'm going to say because I've said it before. And when you were talking about the robotic arm choosing between the red and green light and you flash them both at the same time, it's not exercising free will. It's making a choice because it's been programmed to make a choice. And maybe it's choosing green because it's more often reacted to green. I don't think it's a matter of, because you're talking about an artificial intelligence that simply doesn't exist. I mean, a thinking machine. We're building the machines to anticipate us and react to us, but they're not thinking on their own and making, I don't know, I wouldn't call it a choice. I guess they're making calculations. They're not making human choices like we make. My phone isn't making a human choice when it anticipates what I'm going to type next. It's calculating what I'm going to type next based on what I've typed in the past.
Mais là, on touche vraiment les cœurs de certains aspects métaphysiques, philosophiques de chez l'homme. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Qu'est-ce que c'est que de dire « je pense » est-ce que peut-être finalement on va pouvoir, dans les neurosciences, trouver que oui, la motivation de faire quelque chose est codée dans une certaine part de le cortex ventral et le ganglion du bas, et que la transmission de ça vers un acte motrice est dans le cortex prémoteur, etc., et qu'on peut donner le schéma mécanistique de le libre arbitre. Donc en fait, mais c'est pour ça que c'est super intéressant dans ce contexte robotique, science-fiction, philosophie. Toutes ces choses viennent ensemble, mais juste pour dire que quand tu dis un robot ne peut pas penser comme moi, déjà il faut dire mais qu'est-ce que ça veut dire de penser?
Well, when there's a reaction, when we observe a reaction in the brain, like this part of the brain lights up when I drink a glass of orange juice or whatever it might be, or feel an emotion like love or anger, we're observing the chemical electrical reaction in a brain, but we don't know what that is. I mean, where's the leap between that chemical electrical reaction and the emotion? I mean, we could make something that would have those same reactions, but is it having an emotion, or is this mimicking a mechanical process in our own brains? What's behind the mechanical process?
Il y a un autre truc qui m'a super intéressé, pour ça, c'est pas exactement ce sujet-là, mais ça, c'est quand même pas très loin, c'est qu'il y a un autre système qui s'appelle le Brain-Machine Interface, qui permet de faire presque un cliché de l'état électrochimico-magnétique de l'esprit. Ils ont fait ça pour, par exemple, vous enregistrez votre état mental de votre main fermée, et vous faites un cliché, et vous faites aussi ça sur votre main ouverte, et c'est après forcément numérisé, et après vous l'appliquez à un bras robot. Donc, il y a un moment, moi je dis, ouais, c'est super intéressant, et ils ont dit, oui, on a vu venir des gens, des occidentaux, certainement des Américains, de certaines sociétés, CIA ou je ne sais pas quoi, qui dit, mais c'est super intéressant, parce qu'ils sont toujours à la recherche de quelque chose qui peuvent savoir ce que vous avez dans la tête. J'ai dit, bah oui, d'accord. Mais alors il dit, bon, ça permet une représentation assez précise, mais à un certain niveau, c'est quand même aussi comme les empreintes digitales, où il y a vraiment une originalité, une particularité pour chaque être humain. Donc ça, c'est déjà un peu rassurant. Et par contre, l'autre, j'ai dit, mais alors ça veut dire que on va pouvoir aussi, par exemple, moi, quand je ferme les yeux, j'ai des images, ou j'ai des dessins qui m'apparaissent et qu'après j'arrive des fois à faire avec le dessin, mais ça veut dire qu'on va pouvoir aussi capter cette chose-là. On m'a dit, alors pour l'instant, c'est pas tout de suite, mais voilà, avec trois petits points de suspension. Donc à un moment, j'ai dit, on peut aussi quand même, à plus ou moins long terme, j'en sais rien, numériser quelque chose qui est quand même du domaine de l'impalpable, de l'indicible. Donc, est-ce que ça va un peu dans l'intelligence et le libre arbitre, c'est aussi un peu dans ces zones-là. Quand je vois là ce qui a été fait, c'est où, à Stanford, je ne sais plus quoi, où on arrive à capter ce que une genre de presque persistance cérébrale d'images qu'on a perçues, je me demande un peu vers si on va vraiment vers ce que j'imagine, ce qui est la science-fiction, quoi.
Good.
Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de, je voudrais élargir un petit peu la chose. C'est-à-dire que là, on a parlé, donc effectivement, de l'intelligence ou de la non-intelligence du robot, de l'interaction du robot avec un humain, qui est en fait son donneur d'ordre ou son client, on va dire, on peut dire aussi. Mais maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir, bon, le robot. Admettons que l'on donne un robot, qu'on ait un robot pour une personne qui a des handicaps ou pour quelqu'un qui est âgé, qui a besoin donc d'une assistance. Donc le robot va l'aider, l'assister. On a vu un superbe film sur une personne non-voyante tout à l'heure. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, est-ce que quelqu'un s'est penché sur la notion de la troisième personne ? C'est-à-dire comment, quel est le regard de la société et des gens qui arrivent ? Admettons que votre mère et soit âgée et donc un robot pour s'occuper d'elle, qui s'occupe de sa maison d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que quelqu'un s'est penché sur la vision de l'enfant, du fils, de la fille ou du voisin qui vient, qui se rend sur le, qui est face au robot?
Ouais, c'est un sujet qui maintenant a bien été identifié. C'est les troisièmes personnes, ça peut être la famille, ça peut être les infirmières qui viennent régulièrement voir la personne. Il faut à tout prix que le robot soit accepté aussi par elle. Et d'ailleurs, en général, nous on dit qu'on fait le robot pour ces personnes-là et pas pour la personne âgée ou la personne handicapée. On les fait en disant à ces gens-là, ce robot ne sera pas là pour vous remplacer. Donc ne comptez pas sur lui pour dire, vous n'avez plus besoin de venir voir votre mère ou votre grand-mère. On a toujours besoin de vous, le robot est juste là pour faire ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous n'avez pas le temps de faire, vous n'avez pas envie de faire, mais le robot ne vous remplace pas, il vous complète. Voilà, il peut être là, lui peut être là tout le temps, donc lui il peut apporter à boire, il pourra surveiller quand la personne tombe, mais ça ne remplacera pas la présence. Et on en parlait avec des médecins qui disaient, il y a certains patients dans des chambres d'hôpital, ils ne voient personne, il y a juste l'infirmière qui passe deux fois par jour. Et il y en a, quand ils voient l'infirmière, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'elle change les draps, qu'elle leur nettoie les chiottes, et voilà. Et il y en a, et qui passent le balai par terre, parce que c'est dégueulasse. Et puis il y en a d'autres qui disent, moi tout ça je m'en moque, je veux qu'on me parle, parce que personne ne me parle. Et donc, s'il y a un robot qui arrive avec l'infirmière, eh bien voilà, le robot fera ce que l'infirmière ne fait pas, ou ce dont la personne a le plus besoin. Elle a envie qu'on lui parle, le robot va lui donner des nouvelles, il va faire un peu de chat, on a déjà quelques... voilà, donc on peut... Voilà, le robot va complémenter cette troisième personne qui est là et qu'on ne doit pas du tout remplacer.
I could imagine a more sophisticated version of the old ELISA program that could communicate with a person. Somebody, like you were just talking about, an elderly person or someone, a shut-in of some type, nobody to talk to all day, the nurse comes in and performs the task. But a sophisticated ELISA-type program could have a conversation that could fool you into thinking that you were having a conversation, especially if you were already predisposed to be fooled. Not fooled like I don't mean that like in a mean-spirited way or some sort of lacking in cognitive awareness, but the idea that you kind of want to be fooled in the same way when you go to the movies or read a book, you want to suspend your disbelief. A person might want to suspend his disbelief in a thinking robot, because the way it's talking to him or her, you can kind of get on board with it and have this conversation. And it might perform the same salutary function as having a conversation with anybody or somebody who's not overly interested in what you have to say, but will talk to you anyway and sit and listen. And a lot of times that's just what someone needs to feel better.
Avec les technologies de mémoire qu'on a dans les ordinateurs, on peut imaginer que ce système, il va se souvenir de ce qu'on avait discuté hier. Il va pouvoir chercher sur l'Internet, d'être informé. Quelqu'un qui aime le basket, il va connaître tous les scores de tous les matchs. Donc, ça peut être un vrai copain. Et ça mène à une autre question. C'est un petit peu comme les jeux vidéo. Imagine que c'est pour un enfant et que l'enfant, il devient tellement accro à son robot qu'il veut plus parler avec son frère ou avec sa mère. Et donc ça, je crois qu'il faut aussi voir cette côté où le robot, il est au courant qu'il ne doit pas monopoliser la personne. Et même, en fait, on peut même imaginer que le robot, au contraire, peut jouer un rôle de médiateur qui va ouvrir le monde social de cette personne qui peut être un petit peu renfermée vers autrui. Et tout ça, c'est paramétrable. Donc c'est,
ils ont fait justement au Japon des études là-dessus dans les écoles. Et c'est vrai que certains enfants qui étaient un petit peu autistes ou qui n'avaient pas beaucoup de communication, à travers les petits robots qui ont été mis disséminés dans les classes, s'ouvraient un petit peu au monde et pouvaient communiquer plus facilement après ces expériences.
Et pour rebondir sur ce que dit Peter, je pense que l'enfant, il tolérera mieux que le robot lui dise hey, « ça fait 2 heures qu'on joue ensemble et t'as parlé à personne, on t'appelle à table et tout », alors que si c'est l'ordinateur qui fait ça, l'enfant, il va donner un grand coup de clavier sur l'ordinateur, de quoi je me mêle. Et donc le robot, de par sa forme, autorisera plus justement la remise en question, comme s'il y avait une espèce de conscience, en fait. Et c'est ça qui fait une partie de l'intelligence qui manque aujourd'hui aux machines, c'est que la machine a conscience qu'on lui demande 10 fois, elle peut avoir conscience petit à petit que ça fait 10 fois qu'on lui demande la même chose, ça fait 5 heures qu'on fait la même chose, et elle peut dire, écoute, ça fait quand même un moment, et ça on le supportera d'un robot. Est-ce qu'un ordinateur aujourd'hui, un ordinateur le ferait? Je pense qu'on changerait de programme. Enfin, c'est un peu l'accord parental. L'accord parental, il va dire au bout d'un moment, bah, ça y est, 2 heures sont passées, on coupe. Voilà, on peut extrapoler ça, et je pense que ça sera mieux accepté d'un robot qui sera un compagnon qu'un simple outil dont on se sert pour jouer. C'est vraiment un changement de nature qu'on essaye de faire. On va,
Donc justement, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. On n'a pas répondu tout à fait à la question tout à l'heure quand j'avais un petit peu essayé d'aborder le sujet de la personnalisation du robot. Parce que là on tend vers justement cette espèce de frontière entre... je ne dis pas que le robot lui-même a une personnalité pour l'instant, mais la personnalité que la personne qui est en face projette en lui. Donc là, ce qui vient d'être dit, c'est justement qu'on va essayer de artificiellement lui donner cette personnalité. Et moi, ce que je crains, je sais pas, donc je vous pose la question, est-ce qu'on ne risque pas justement de la personnalisation à des points qui peuvent aller trop loin dans le genre de l'amour, voilà, pour dire le mot, quoi, un peu plus loin.
Moi, j'ai pensé plutôt comme quelque chose comme presque le robot comme outil de modifier. Imagine que, un cas où un enfant, il est mal discipliné, il n'écoute personne, hein, et le robot va petit à petit amener cet enfant vers une personnalité plus sociale par sa propre réaction. Et comme tu disais, le robot, il a une certaine autorité. Et l'enfant, il veut interagir avec le robot. Donc, si le robot dit « Vous ne m'avez pas demandé correctement », on ne joue pas. Et donc, peut-être, ça peut être même une personnalisation plutôt de l'humain vers une interaction plus sociale.
Il y a un aspect assez intéressant qu'ils sont en train de développer aussi, je crois que chez NEC encore, où... il pense que le robot va nous accompagner toute notre vie. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il va presque enregistrer toutes les phases de notre vie, quand on est enfant, donc ça va être quelqu'un qui va nous connaître extrêmement bien, qui pourra même, l'humain, avec sa mémoire un peu, on peut oublier des choses. Lui, il pourra peut-être vous repasser le film ou... de l'anniversaire de quand vous aviez 2 ans ou je sais pas. Donc il y a une genre d'intimité qui va se créer, qui va certainement amener un échange comportemental assez différent de ce qu'on peut avoir avec les humains, je sais pas.
Sauf que les fabricants de robots, comme les fabricants d'ordinateurs, tous les 3 ans ils vont t'en racheter un nouveau.
Ça, c'est bon.
Et que ça
c'est
sera
bon.
Pas compatible.
Donc on est sauvé. L'obsolescence, alors c'est bon.
Oui, mais sauf que chaque fois que je change ma portable, je fais un import total de la dernière. Et donc maintenant, j'ai 10 couches d'anciens ordinateurs. Mais on peut imaginer de faire ça, même si le corps de robot change. En fait, c'est ça la beauté que son esprit, ouais. Si on dit, va être transporté chaque fois.
Et même avec le cloud, aujourd'hui, on imagine que le robot qu'on côtoie chez soi, quand on arrive chez un copain qui a lui-même un robot... Eh ben, le robot du copain peut récupérer toute la mémoire de notre robot à nous. Donc notre robot nous suit partout, parce que virtuellement, il peut projeter ce qu'il sait à un autre endroit de la planète, ou à ma voiture, ou à mon frigidaire, ou au frigidaire de l'hôtel auquel je suis.
Donc c'est plus un génie qu'un robot, en fin de compte.
Oui. Hein. Ouais,
c'est
ouais.
Ça. Bien, écoutez, il nous reste à peu près 10 minutes, donc je vous propose, si vous avez des questions, de répondre à vos questions. Attendez.
Bonjour, on est dans un festival de science-fiction, donc il y a un maître, à mon avis, qui a parlé des robots, c'est Asimov. À votre avis, quand est-ce qu'on arrivera à l'examen éventuel de l'usage des trois lois, des fameuses trois lois, on peut en rajouter d'autres sur ça.
Alors d'abord, le débat sur ce sujet, c'est après-demain, monsieur. Donc vous reposerez la question samedi. Alors nous, déjà, sur nos petits robots qui ne sont pas dangereux, on pourrait dire que la question ne se pose pas. Néanmoins, rien qu'avec Nao qui est petit, je ne sais pas si vous l'avez vu, on commence déjà à pouvoir faire mal à quelqu'un, à lui coincer les doigts. Et donc on s'aperçoit que très tôt, il faut qu'on dise, alors on ne va pas le dire de façon sémantique comme le fait Asimov, on va dire que la priorité du robot, c'est de ne pas faire mal à quelqu'un. Et donc de sans arrêt surveiller, et ça, il y a plein de travaux par des mathématiciens sur la question, on va surveiller les efforts que le robot exerce sur son environnement et vérifier que l'effort qu'il est en train de faire est compatible avec la tâche qu'il est censé faire. Par exemple, quand le robot plie son bras, si vous mettez votre doigt ici, lui, il sait l'effort qu'il doit faire pour plier un bras quand il ne porte rien. Et s'il voit que l'effort qu'il est en train de... Alors, soit on lui a mis des capteurs tactiles, il sent qu'on le touche, il va s'arrêter, soit on ne lui a pas mis, il va sentir que l'effort qu'il est en train de développer est un peu supérieur à ce qu'il devait faire, donc il va dire, oh là là, c'est pas normal, je m'arrête. Donc la première loi de la robotique, elle est essentielle pour nous, on ne doit pas faire de mal aux gens. Et c'est ça aussi qui va sans doute ralentir le développement d'une certaine robotique. On a un robot japonais qui est très fameux, où le robot porte les personnes pour les faire passer du lit à la chaise, à les mettre debout. Voilà, Asimov, je ne sais pas ce qu'il en penserait, parce que quand vous savez faire ça, vous savez prendre la personne et la mettre par terre, vous savez faire plein de choses. Et donc aller vers des robots trop forts met la première loi vraiment en danger. Donc il y a un compromis à trouver entre des robots qui sont vraiment efficaces et des robots qui vont devenir dangereux. Et vraiment, cette première loi, elle est essentielle. Après, les lois d'après, elles sont encore plus sémantiques, parce que par mon inaction, vérifier que je vais faire de mal à personne, ça devient difficile à percevoir. Bon, après, se protéger soi-même, ça, le robot, voilà. Mais voilà, faire la première partie de la première loi, ne pas faire de mal à l'être humain, c'est déjà pris en compte. Après, prendre en compte les conséquences de nos actes, et c'est souvent ça que sur lequel joue Asimov. Le robot, il se rend compte que s'il ne tue pas cette personne maintenant, dans 2000 ans, la race humaine sera éteinte. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment le coder? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? C'est difficile. Voilà, donc on en voit les prémices, on commence à s'en occuper, mais bon, faut pas non plus. Il y a des choses qui sont. Ouais.
Je voudrais juste te dire qu'il nous manque quand même le cerveau positronique d'Asimov. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Hein.
Pour les détails techniques, on verra.
Oui, bonjour. On constate depuis quelque temps que la recherche robotique, en particulier au Japon, s'oriente plus vers les exosquelettes que vers les robots d'assistance. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un moyen effectivement de lier intimement l'humain à la machine et que ce soit effectivement l'humain qui dirige la machine plutôt que d'avoir une machine autonome et qui prenne elle-même ses décisions?
Je crois que la notion de piloter un exosquelette, ça, c'est quelque chose, non, c'est pas tout à fait intuitif, au moins dès le départ. Et ça, de toute façon, ça change le lien physique entre l'homme et le robot, mais le robot, toujours ses problèmes d'autonomie, de faire les décisions, d'agir sans l'humain. Si c'est qu'un exosquelette qui permet d'augmenter la force de l'être humain, il y a plein de besoins que ça ne va pas remplir. Donc je ne crois pas que ça peut être la solution totale.
En plus, je pense qu'on n'a pas du tout la même position au niveau comportemental vis-à-vis d'un exosquelette que vis-à-vis d'un robot, même un petit robot à roulette. Il y a vraiment, moi c'est ça que j'ai trouvé quand même assez fascinant durant le reportage que j'ai fait, c'est que même des choses qui sont quand même très très loin de nous et où il n'y a pas forcément beaucoup d'intelligence dedans, on a quand même un sentiment de quelque chose de vivant. Même avec Aibo, vous le voyez bouger à vos pieds, vous avez un sentiment. Avec un exosquelette, si vous n'êtes pas dedans, c'est quand même comme une armure, quoi. Donc, il n'y a pas le même rapport du tout avec le.
Et d'ailleurs, dans la science-fiction, certaines science-fiction, on voit Iron Man qui a un exosquelette. Il a aucune discussion avec son exosquelette. Il discute avec son petit robot qui l'aide à bricoler dans son garage. Mais en revanche, ce que dit Caro est très vrai. Il y a ce côté affectif n'existera pas du tout. Alors c'est peut-être ce que vous mettez en avant. Moi, ce que j'aime bien dans l'exosquelette, c'est l'histoire de Robocop. Robocop, c'est une espèce de super exosquelette qui est mis en balance avec le robot entièrement autonome, le D209, et puis le Robocop où il y a un cerveau humain et c'est lui qui prend les décisions. Et là, on est sûr qu'il y a un bien meilleur traitement de l'information. Donc l'exosquelette, ça répond, voilà, c'est comme disait Peter, ça répond à certains problèmes, mais ça répond pas à d'autres problèmes qu'on soumet aux robots autonomes. Et puis c'est beaucoup moins rigolo à faire aussi.
Bonjour. Bonjour. Pour revenir sur les dangers dont on parlait, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les recherches robotiques soient reprises par l'armée, le développement militaire, et dans ce cas-là, ça viendrait contredire la première loi ?
Ouais, je ne crois pas que ça soit un risque, parce que s'il y a de l'armée, il y aura de l'argent et ça avancera plus vite. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est une plaisanterie. En effet, c'est la grande crainte des gens qui voient des militaires s'approcher. Nous, pendant longtemps, chez Aldébaran, on a dit dès qu'un militaire s'approchait à moins de 200 mètres du pâté de maison, on fermait tout, on éteignait tout, on faisait croire qu'on n'était pas là. Et puis, il y a certains militaires qui nous ont réussi à nous parler quand même. Et on dit, ouais, mais nous, on voulait faire du déminage avec vos robots. On voulait mettre 50 naos dans un champ, et puis c'est les naos qui sautent, c'est les naos qui trouvent. Alors on a dit, ouais, bon, on peut se parler un peu, mais c'est vrai que... Mais la technologie robotique, c'est comme toutes les technologies. Elle n'est pas mal en soi, c'est l'usage qu'on en fait. Une voiture, c'est super une voiture. Combien de gens ont tué avec nos voitures ? Voilà. Donc c'est vrai que nous, ingénieurs en robotique, on s'abrite un peu derrière ça. Alors on peut-être se mettre des précautions, mais voilà, nous, on ne peut pas vraiment imaginer ce que les gens vont faire avec nos robots. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout arrêter ? Ça me paraît difficile. Et même, ce n'est pas parce que le donneur d'ordre est entre guillemets méchant comme un militaire, la vie n'est pas si simple, qu'on ne peut pas dire que tout ce qui va en faire sera mal ou tout ce qui sera en faire sera bien. Donc c'est extrêmement délicat. Et s'abriter derrière, c'est un militaire, donc je ne le fais pas ou j'y vais pas ou je ne prends pas son argent.
There's the aspect too that the military always has all the money. So research and development in robotics probably proceeds a little more swiftly if there's a military application or if they imagine there could be one. So they'll be building, just like now with their remote control drones and even small robots with articulated limbs that'll walk out over the hilltop and survey and do all this stuff. That technology probably developed faster because the military has billions of dollars to spend at least a portion of that on developing this sort of thing. And maybe it could be a reverse. We always talk about, well, how will the military use this and what, like, evil, violent ways. But maybe some of the stuff the military develops will be used with civilian applications in ways that would benefit us. But it coming out of the military, where the money is.
Et de toute façon, on ne sait jamais comment certains développements qui sont faits pour l'armée, par exemple, le développement de tous les simulateurs de vol et a permis tout le développement de l'image de synthèse. On n'aurait pas Pixar sans les militaires. Donc, c'est jamais aussi simple que ça, quoi.
Une autre question ?
Oui. Bonjour. Je voudrais poser une question par rapport au titre du débat, c'est les robots domestiques. Alors, la domotique en général, par rapport aux robots, comment vous situez ça ? Est-ce que la maison du futur, ce sera un robot géant ou des choses comme ça ? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette question ?
Moi, la plus belle application domotique que je connais, c'est dans 2001 Odyssée de l'espace, où on a un robot qui est caché, qu'on ne voit pas, et qui prend le contrôle de toute la maison. Et c'est super inquiétant, parce qu'on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il regarde, on ne sait pas ce qu'il voit. Voilà, donc pour moi... La domotique, c'est bien parce que le robot, on ne peut pas lui demander de lever les volets. Voilà. Si on commence à faire un robot qui veut faire tout ce qu'il y a à faire dans une maison, il va être super compliqué, super cher, on n'y arrivera jamais. Et c'est ce que disait Caro tout à l'heure, le robot va être une interface vers la domotique. vous ne savez plus où est la télécommande de vos volets roulants, vous ne savez plus où est la télécommande, comment on distingue la télécommande de la télé, du magnétoscope. Voilà. Le robot, il se débrouille de tout ça. Et le robot, il va le stocker une fois pour toutes, il n'oubliera jamais, il va prendre tous les codes infrarouges de toutes les télécommandes, et vous lui direz, ferme les volets, mets-moi la troisième chaîne, mets le décodeur en route, il se débrouille.
Oui, mais justement, est-ce qu'on peut imaginer que
monsieur a été censuré?
Si j'ai une maison complètement domotique, je n'ai pas besoin du robot. Je vais parler à ma maison, je vais lui dire ouvre-moi les volets.
Voilà, mais est-ce que voilà, mais justement, moi, ce que je crains dans ça, c'est qu'il y a une espèce de faut voir, hein, c'est des projections. Il faudra voir comment ça se passe dans la vraie vie. Nous, ce qu'on dit, c'est que vous ne serez pas très heureux d'avoir en permanence plein de caméras partout. Voilà, et la maison, pour marcher comme elle vous dites, il faudrait qu'il y ait des micros partout. Et vous serez, c'est ce qui se passe dans 2001 Odyssée de l'espace, à la fin, ça paraît très bien au début, puis en fait vous êtes tout le temps espionné. L'intérêt du robot, c'est que vous savez où il est, vous savez ce qu'il regarde, vous savez ce qu'il fait, et si c'est lui l'entrée, vous le mettez dans un placard, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus, Donc c'est un des intérêts, mais sinon c'est vrai, vous avez raison, la fonctionnalité est la même, mais après c'est le ressenti, et c'est l'embodiment, donc le fait que ça soit incarné dans un objet, plus que une ubiquitous, une intelligence qui est répartie, on ne sait pas où elle est, je pense que ça va aussi participer à l'acceptabilité de ces technologies.
Bien. Eh bien, écoutez, nous avons atteint l'heure. Je vais vous remercier beaucoup. Merci de nous avoir éclairés sur la robotique, de nous avoir fait un peu rêver. Et donc, à bientôt pour d'autres conférences. Bien, merci à vous. Excusez-moi, juste une dernière chose, n'oubliez pas de ramener vos petits appareils de traduction pour qu'ils puissent être chargés.